affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers auditeurs, bonjour, vous êtes à l'écoute de Canal Academy. Notre émission de ce jour est une invitation à observer le monde d'une façon totalement nouvelle pour beaucoup d'entre nous, car nous allons, durant près d'une heure, l'observer avec les lunettes, ou plutôt avec le kaléidoscope d'un physicien. Nous en avons fait, en effet, la chance de recevoir dans notre studio le physicien Jacques Villain, membre de l'Académie des sciences, après avoir longtemps exercé au Commissariat à l'énergie atomique, et qui vient de publier en compagnie de deux collègues un ouvrage précisément intitulé « Le kaléidoscope de la physique ». Jacques Villain, bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter, Jacques Villain, pour le titre de votre ouvrage, car il exprime excellemment ce que l'on ressent en lecture de votre livre. Vous n'êtes pas sans savoir, chers auditeurs, en effet, que kaléidoscope vient des mots grecs kalos, eidos et scopein, le tout signifiant approximativement « regarder de belles images ». Et oui, mille fois oui, le monde tel que vous nous le donnez à voir avec le spectre de la physique est infiniment beau. On a longtemps cru que la science, la connaissance scientifique, on l'a souvent accusé, la science, plutôt d'avoir contribué à désenchanter le monde. Eh bien, à la lecture de votre livre, nous ressentons exactement le contraire. Le monde que vous nous montrez est non seulement plus beau, plus diversifié, plus coloré, mais aussi plus merveilleux que celui que nous contemplions auparavant. Et tout cela en progressant de façon finalement assez simple, en posant des questions ayant trait à la vie et au monde que nous côtoyons tous les jours, comme pourquoi les cours d'eau dessinent-ils des méandres, comment faire chanter un ver à pied, est-il possible de déguster de bonnes pâtes en haut du mont Everest? Eh bien, à travers toutes ces questions, c'est bien un monde parfaitement étonnant qui se révèle. Et ma première question concerne la démarche et finalement la vocation de scientifique. Est-ce qu'elle naît justement de cette curiosité fondamentale, à cette capacité à s'interroger sur des choses qui peuvent paraître évidente à d'autres?
Il me semble certain que le progrès scientifique est effectivement dû à la curiosité des hommes, et notre livre s'adresse naturellement à des gens curieux. Bon, les anciens déjà se sont demandé pourquoi le ciel était bleu, pourquoi les nuages étaient blancs. En fait, ils se posaient surtout les questions relatives aux étoiles, ils se demandaient pourquoi les étoiles tournaient. Alors, ils avaient inventé des dieux, et quand même, est-ce que les dieux étaient plus simples que notre physique actuelle ou moins simples? Je ne sais pas. Mais enfin, j'espère que pour le lecteur, ça ne sera pas trop compliqué.
Premier sujet d'étonnement de la part d'un lecteur non scientifique, c'est que les questions qui sont posées ne sont pas toutes d'ordre utilitaire. On croit parfois que le moteur du progrès, c'est une volonté d'améliorer son quotidien, bon, ce qui est certainement vrai pour une part, mais pas seulement. Il y a beaucoup de questions qui sont posées, qui sont purement gratuites.
Bien sûr. Et même les choses qui peuvent servir à quelque chose, excusez-moi, souvent on se pose des questions qui ne sont pas directement liées à leur usage. Par exemple, la corde de violon, nous avons un chapitre qui étudie pourquoi on arrive, comment on arrive à faire vibrer et à donc émettre un son avec une corde de violon en la frottant. Et c'est une chose très compliquée et qui n'a été comprise que très récemment. Les violons, ça existe, je pense, depuis la fin du Moyen-Âge. Mais les gens n'ont compris comment ça fonctionnait qu'à la fin du 19e siècle. C'est le physicien allemand Helmholtz qui a compris, et il a compris grâce à des instruments qu'il avait construits. Mais on peut évidemment très bien jouer du violon sans savoir comment ça marche.
Oui, Stradivarius lui-même ne devait pas tout à fait savoir
comment ça marchait. Je suis persuadé qu'il ne savait pas du tout comment ça marchait, il ne pouvait pas savoir.
Alors justement, comment cela fonctionne-t-il ?
C'est très compliqué. C'est l'un des chapitres les plus difficiles de notre livre. Mais enfin, grosso modo...
Ne nous quittez pas, même si c'est compliqué. On va aller directement dans le dur et ensuite on viendra des choses plus simples, comme faire chanter le phénomène des vers chanteurs, oui. Ce sera plus simple. Mais commençons par le Stradivarius.
Eh bien, on peut dire qu'il y a deux phases. Quand le violon glisse, il commence par accrocher la corde, et la corde le suit donc. Et puis la corde décroche parce qu'elle est trop tendue. Et tout cela fait une vibration. Et cette vibration est due au fait que la corde de violon, le frottement de la corde sur l'archet, ne vérifie pas les lois habituelles de la physique. Lois habituelles de la physique, du frottement, qui sont dues, devinez à qui ? À Leonardo da Vinci. Alors, il n'a pas publié ses idées, il n'a pas publié les résultats des expériences qu'il a faites, mais il a laissé des dessins qui montrent bien qu'il a fait des expériences et que probablement il a découvert les lois avant les deux physiciens français du XVIIIe siècle, de la fin du XVIIIe siècle, qui étaient Guillaume Amontons et Charles Coulomb. Alors, la corde du violon, précisément, ne vérifie pas ces lois, mais il y a d'autres objets très, très bien connus qui vérifient ces lois, et notamment, parmi les plus amusants que nous citons, justement, c'est la boule de billard. Si vous frappez une boule de billard de façon appropriée, grâce au frottement contre le tapis, la boule de billard commence par avancer, ce qui est assez normal, et puis après elle s'arrête et elle se met à reculer. Bon, moi je n'avais jamais joué au billard, et puis pour écrire ce livre, je suis allé me faire expliquer le billard par le président du club de billard de Grenoble, qui m'a très aimablement reçu, mais moi j'ai été émerveillé. Donc en écrivant ce livre, nous avons appris beaucoup de choses.
Vous évoquiez tout à l'heure la couleur du ciel. Pourquoi le ciel est-il bleu ? Voilà bien une question gratuite qui n'implique probablement aucune capacité à mettre un produit sur le marché d'aucune sorte, mais qui nous émerveille pourtant. Alors pourquoi est-il bleu ?
Eh bien, le ciel est bleu parce que les molécules d'air, enfin les molécules d'oxygène et d'azote qui diffusent la lumière, diffusent davantage la lumière bleue. Elles diffusent davantage la lumière de haute fréquence et donc de courte longueur d'onde que la lumière de grande longueur d'onde. Elles diffusent davantage la lumière bleue que la lumière rouge. Alors, elle diffuserait encore plus la lumière violette, mais le ciel est bleu parce que la réaction de notre œil aux différentes lumières et ce qu'elle est, c'est un peu une question de physiologie. Alors, par contre, ce qui est étonnant, c'est que, alors que le ciel est bleu, le ciel sans nuages est bleu, les nuages, ils sont blancs. Enfin, ils sont blancs.
Pas toujours.
Oui, alors s'il n'y a pas une, ça dépend de la façon dont on les regarde. Si on est en dessous, les nuages ne laissent pas passer la lumière, donc ils sont noirs forcément. Mais si vous regardez la lumière qui frappe un nuage de flanc, le nuage est blanc. Alors la raison, c'est que cette loi qui dit que les molécules diffusent davantage la lumière bleu que la lumière rouge, elle n'est pas valable pour les particules d'une certaine taille. Or, les gouttes d'eau des nuages, elles sont trop grosses, leur diamètre est plus grand que la longueur d'onde de la lumière, et à ce moment-là, la loi dont je viens de parler, qui s'appelle la loi de Rayleigh, qui dit que l'énergie diffusée par une goutte est proportionnelle à énergie incidente constante est proportionnelle à la puissance 4 de la fréquence, cette loi n'est plus valable. Une goutte suffisamment grosse, donc supérieure à un micron, à un micromètre, donc à un millionième de mètre, eh bien, elle diffuse également toutes les couleurs et par conséquent, la lumière est blanche, car on sait que la lumière diffusée est blanche, car la lumière que nous recevons du soleil est essentiellement une lumière blanche. Donc, si tout est diffusé, on a de la lumière blanche.
Je m'en veux, je viens de trouver une application pratique à cette découverte. Ne pourrait-on pas alors, en jouant sur la taille des molécules qu'on envoie dans l'atmosphère, composer des sortes de symphonies de couleurs, un petit peu comme celles qu'on découvre à l'état naturel dans un arc-en-ciel?
Oui, alors l'arc-en-ciel, c'est encore autre chose. L'arc-en-ciel est dû au fait qu'on a une diffusion essentiellement par une seule goutte. La lumière vient du soleil, elle heurte une goutte, elle revient à l'œil. Et il se trouve que la diffusion par une goutte ne se fait pas de la même façon selon les angles. C'est un tout petit peu comme un prisme, encore qu'il y ait des sérieuses différences. Mais donc c'est dû à autre chose. Mais il faut vraiment qu'il n'y ait qu'une seule goutte qui diffuse. Hein, parce que si vous avez une diffusion par de multiples gouttes, finalement vous retrouvez toutes les couleurs en nombre égal forcément. Et vous avez donc de la lumière blanche.
Alors je ne sais plus si la réponse à cette question précise est dans le livre ou pas, mais il y a des réponses à la plupart des questions qu'on peut se poser, et même surtout à celles qu'on ne se posait pas auparavant. Hein, donc ça, je rassure les auditeurs. Mais il m'en vient une nouvelle. En parlant, et donc je profite de votre présence, c'est le privilège de celui qui interviewe, on observe des variations dans la couleur du ciel, notamment, je sais pas, le phénomène des aurores boréales, les couchers de soleil, le ciel n'est plus blanc, mais il est rouge. Pourquoi ?
Alors, je vous réponds tout de suite sur les aurores boréales, nous n'en parlons pas, et je ne me souviens plus à quoi c'est dû, enfin, c'est relativement compliqué. Pourquoi le ciel est rouge au soleil couchant? Eh bien, c'est à cause de la loi de Rayleigh dont j'ai parlé. C'est que la lumière bleue ou violette est très fortement diffusée. Et comme elle arrive sous incidence rasante...
C'est l'angle qui crée la couleur, en quelque sorte.
Disons que la lumière qui est trop diffusée, on ne la voit plus, elle est perdue. Elle s'en va un peu dans toutes les directions, elle ne nous arrive pas. Tandis que la lumière rouge n'est pas trop diffusée, et elle nous arrive quand même.
On va passer du ciel à la terre. Vous consacrez un chapitre également au sable, avec des questions du type pourquoi le sable s'assèche-t-il sous nos pieds, et la façon aussi dont ça préfigure un petit peu la façon dont la matière s'organise. Lorsque vous voyez une plage, vous, Jacques Villain, que vous vient-il à l'esprit ?
Quand je vois une plage, j'ai surtout envie de me baigner, d'aller plus loin. Mais enfin, ce que nous expliquons dans notre livre, c'est l'observation faite par un monsieur qui s'appelait Reynolds, je crois, et qui était en fait un spécialiste de mécanique des fluides. Il s'est aperçu effectivement que quand il mettait le pied sur le sable, eh bien le sable séchait, devenait sec, donc le sable mouillé par la mer qui vient de se retirer. Alors vous mettez le pied dessus et il y a une zone sèche qui apparaît autour de votre pied. Alors la raison est due au fait que en profondeur, donc sous votre pied et au voisinage de sous votre pied, vous déformez le sable, donc vous créez des trous, l'eau s'engouffre et elle devient sèche par conséquent dans les endroits qui ne sont pas modifiés. Le sable est en fait un matériau extrêmement intéressant et nous en parlons d'une autre façon. Il y a également le sable est un moyen d'étude des instruments de musique. Vous pouvez répandre du sable sur une guitare ou sur un violon, et vous jouez une note, et vous voyez apparaître des figures, le sable vient se regrouper à certains endroits, et pas à d'autres, ce qui donne des informations très intéressantes sur le mode de vibration de la plaque de violon, de la caisse de résonance du violon. Alors ça, c'est une découverte qui a été faite par un physicien allemand qui s'appelait Chladni, je pense que c'est au XVIIIe siècle. Et ça donne de très très belles figures. Les figures de Chladni, nous en reproduisons quelques-unes, qui ont été faites d'ailleurs par des physiciens français travaillant en Australie. Mais les instruments de musique sont un domaine d'études intéressant pour les physiciens.
En tout cas, le simple fait que cette personne soit un physicien allemand du XVIIIe siècle tente à démontrer qu'il y a bien des passerelles entre les arts et la physique, puisque s'il y a un siècle d'or de la musique allemande, c'est bien celui-là. C'est probablement pas fortuit. Cette expérience faite en répandant du sable sur un instrument de musique m'amène à parler d'un autre aspect souvent surprenant, c'est l'économie de moyens des expériences réalisées. Je pense notamment à celle réalisée, si je ne me trompe pas, par Einstein, pour expliquer la forme des méandres des fleuves.
Oui.
Voilà. C'est une expérience que chacun peut reproduire chez soi, si je ne me trompe pas.
Absolument, oui.
Maintenant qu'elle a été découverte. Hein,
nous l'avons faite, oui. Oui, c'est l'un des rares articles expérimentaux d'Einstein, et c'est probablement le plus facile des articles d'Einstein. Et donc, il a simplement...
Mais quelle était la question posée d'ailleurs ? La question posée, oui. C'est on se rend compte quand on regarde les fleuves, quand ils coulent du moins en pleine, qu'ils forment des méandres assez réguliers.
C'est ça, oui.
Tandis que certains pourraient dire, tiens, c'est joli ou c'est comme ça, d'autres se mettent à réfléchir à la façon, à l'explication de ce phénomène, dont Einstein. Comment procède-t-il pour comprendre cela ?
Oui, alors Einstein a donc fait une analogie. Il a dit, s'il y a des méandres, c'est parce que les courants dans le fleuve transportent le sable, enfin la terre qu'il y a dans l'eau, la transporte de l'extérieur du virage à l'intérieur du virage. Donc, forcément, le fleuve forme un méandre. Et alors, pour démontrer ça, il a pris tout simplement une tasse de thé, mais alors, il n'a pas fait du thé, il y a mis de l'eau et des débris de feuilles de thé, il a remué, il a touillé, et puis il a regardé ce qui se passait quand il arrêtait de touiller. Et il a constaté que les feuilles de thé venaient se mettre au centre de la tasse. Bien entendu, il faut que la tasse soit plate, sans ça, ça ne veut rien dire, mais même pour une tasse plate, ça se produit comme ça. Et alors, il en déduit qu'il y a un courant dans le liquide. Alors, qui est un courant, c'est bien évident, puisqu'on touille, donc il y a un courant qui va... Les feuilles de thé ont des trajectoires horizontale. Mais en plus, ce que montre l'expérience d'Einstein, c'est qu'il y a aussi des courants verticaux qu'on ne voit pas. On les voit uniquement par le résultat de l'expérience.
En quoi cela permet-il de démontrer ? Excusez-moi, mais...
ça montre... S'il y a un courant qui se forme d'une certaine façon, cela montre quand cela implique effectivement qu'il y a un transport de matière depuis l'extérieur jusqu'à l'intérieur.
Donc, si...
Ce qu'on observe, c'est ça. On observe qu'il y a un transport de matière de l'extérieur vers l'intérieur. Et dans le vrai fleuve, c'est effectivement ça qui se passe. Donc, on a formation de méandres.
Voilà qui remet les pendules à l'heure pour moi, car je m'imaginais un petit peu stupidement quoi que ce soit, quand même jouer un rôle, que lorsqu'un fleuve formait des méandres, c'était pour éviter un obstacle. Je pensais que ça avait une origine géologique. Ça peut arriver
oui,
quand même.
Il y a quand même une certaine vérité là-dedans, bien sûr.
Mais la régularité de certains méandres s'explique par l'expérience dont nous venons de parler.
C'est ça, et notamment la régularité du fleuve Méandre qui se trouve en Turquie.
Oui, dont il y a une photographie qui est absolument sidérante, puisqu'on a l'impression de voir un tourbillon d'ADN quand on l'observe tellement il est...
Il y avait une photographie dans ce qu'on a proposé, mais je crois que l'éditeur ne l'a pas reproduite, probablement parce qu'il n'a pas eu la permission.
Ah ben non, c'est un autre, mais qui est sidérant aussi. Pardon, il n'est pas en Turquie, c'est dans le texte que c'est évoqué. Là, sur la photographie, sont les méandres de la Snake River, la rivière serpent aux États-Unis.
Bien nommé, qui mérite bien son nom aussi, oui.
Ressemble effectivement à un serpent qui se love dans le paysage. Nous avions promis d'évoquer quelque chose de la fois plus simple et fascinant aussi, sont les vers chanteurs. Comment explique-t-on qu'en fin de repas, les convives puissent ou non, selon les vers, les faire chanter ?
Oui, car... Comme nous expliquons dans notre livre, mes vers chez moi, ils ne chantent pas parce qu'on les a tous cassés et qu'on les a remplacés par des vers incassables qui sont trop épais pour chanter. Mais enfin, on sait bien qu'en humectant son doigt et en le faisant tourner sur le bord d'un verre, on arrive à faire de la très belle musique. Enfin, très belle musique, pas forcément, mais il y a effectivement... Un monsieur qui, à la fin du XVIIIe siècle, un peu avant la Révolution française, fabriqua un instrument de musique qui fonctionnait comme ça. Donc il y avait une batterie de verre, et je ne sais plus très bien comment il les frottait, mais enfin, il les faisait vibrer ainsi. Alors, le mode de vibration est bien connu, c'est... Alors que le bord du verre est circulaire en général, bien, il vibre et il devient elliptique, il passe d'une ellipse ayant un certain axe à une ellipse ayant un axe perpendiculaire.
Il se déforme légèrement,
c'est ça, il se déforme, il vibre. Alors, la chose pour laquelle je suis très reconnaissant à notre éditeur qui est la Maison Belin, et plus encore à Nathalie Brousse qui travaille pour la Maison Belin, c'est qu'elle a découvert que deux siècles après Franklin, qui est donc l'inventeur de cet instrument de musique, eh bien, il y a de nouveau en France de tels instruments de musique, et sur Internet, on peut écouter de la musique jouée sur de tels instruments. Et on peut écouter de la musique de Mozart, parce que Mozart a écrit pour ce genre d'instrument.
Des partitions dédiées à ce type d'instrument ?
Absolument, oui.
Écoutez, il ne suffit probablement pas d'avoir quelques verres dans sa cuisine pour devenir Mozart, mais toutefois, ce qui est très, très chouette, j'allais dire, parce qu'effectivement, c'est chouette dans votre livre, c'est que la plupart vous proposez un certain nombre d'expériences et que, à l'inverse de beaucoup d'expériences de chimie qui pourraient inquiéter le voisinage, les parents ou les membres de la famille, elles sont inoffensives. On l'a dit, il est possible de faire chanter les vers et d'en déduire, ou en tout cas de vérifier des propriétés physiques. Il est également possible, nous l'avons dit, de comprendre pourquoi les rivières font des méandres. Je voudrais qu'on revienne sur cette économie de moyens mise au service de la recherche. Est-ce que c'est toujours valable aujourd'hui dans un univers professionnel ? Est-ce qu'il est toujours possible, par la simple observation, de démontrer des phénomènes tels que ceux-ci ? Est-ce qu'en dehors de la physique menée avec des supercalculateurs, il y a encore des découvertes aujourd'hui faites avec une telle économie de moyens ou pas du tout ?
Ben alors, Pierre-Gilles de Gennes, qui fut un des grands physiciens français récents, avait effectivement répété volontiers qu'on pouvait faire des expériences très instructives et pas très chères, pas très compliquées, avec des moyens très modestes.
D'ailleurs, il y en a une qui est fascinante, c'est celle où il s'inspire d'un tour de fakir indien. Est-ce que vous pouvez nous la décrire ?
Oui, encore une propriété du sable. Donc, si on remplit un verre d'un matériau granulaire, comme le sable ou comme des pois cassés, des lentilles, je ne sais pas, et qu'on enfonce une baguette dedans, une baguette ou un couteau, je crois que les fakirs aiment bien les couteaux,
oui.
Eh bien, vous agitez un petit peu, de manière à ce que le sable, la matière pulvérulente, devienne plus compacte. Et ensuite, vous pouvez soulever votre couteau et le verre vient avec. Bon, j'ai fait moi-même l'expérience en public, ça marche bien, c'est très amusant.
Et lui-même l'utilisait dans le cadre de l'enseignement, c'est ça ?
Oui, mais enfin, c'est pas lui qui l'a inventé. Hein. Ce sont les fakirs indiens, paraît-il.
Est-ce que quel regard portez-vous sur la façon dont la science est enseignée aujourd'hui ? On dit qu'il y a souvent une crise des vocations, que c'est vrai que la science peut paraître souvent un petit peu intimidante. Réservée à des esprits supérieurs, ce qu'elle peut être d'ailleurs, en tout cas en fin de cursus. En lisant votre ouvrage, je me disais que c'est un ouvrage qui était de nature à provoquer des vocations.
Oui, je vous remercie beaucoup, mais je suis content que vous me posiez la question en ce qui concerne l'enseignement. L'enseignement de la physique en particulier se trouve actuellement dans une situation difficile, devant un problème difficile à résoudre. Notre vie est tellement envahie de plus en plus par la physique que on est tenté de parler, je ne dis pas de tout, mais de presque tout, enfin de beaucoup de choses. Donc, le choix pour les gens qui font des programmes d'enseignement, des programmes de lycée, c'est ou bien de faire un exposé encyclopédique, kaléidoscopique et même plus kaléidoscopique que notre kaléidoscope, au risque d'être superficiel, ou bien alors faire une sélection arbitraire de thèmes et laisser beaucoup de thèmes modernes de côté et avoir l'air ringard. Alors, les gens qui font des programmes ont choisi la première solution. Alors, c'est un peu superficiel, mais je ne crois pas qu'on puisse le reprocher. Ils sont devant un problème, ils l'ont résolu. Je crois que leur solution n'est pas la plus mauvaise.
L'autre solution étant de donner le goût des choses. Est-ce qu'il n'est pas important de manipuler, finalement
Certainement. C'est certain, oui. C'est ce que fait la main à la pâte. Et c'est pourquoi nous essayons de suggérer certaines expériences. Notamment, nous suggérons des expériences avec des fours micro-ondes. Alors, nous suggérons toutes les expériences que les fabricants de fours à micro-ondes recommandent d'éviter. Mais enfin, bon, si on fait très attention, si on ne quitte pas des yeux l'engin, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de risques. Et nous sommes tombés, là, encore une fois, grâce à notre éditeur, nous avons découvert un article d'un physicien allemand contemporain qui décrit diverses expériences à faire avec un four à micro-ondes. Alors, il y en a une que nous reproduisons qui consiste à empêcher le plateau tournant de tourner. Et on s'aperçoit, en déposant des morceaux de pain grillé, on s'aperçoit qu'il y en a qui sont brûlés, d'autres qui ne sont pas cuits. Ce qui montre l'existence d'ondes stationnaires, donc de phénomènes d'interférence. Chacun sait qu'il y a des interférences dans le four à micro-ondes, enfin la plupart des gens le savent, mais le voir, c'est autre chose, et aussi savoir quantitativement quelles sont quelle est la longueur d'onde des rayonnements en question, des rayonnements du four à micro-ondes, et quelles sont les dimensions du four qui permettent des ondes stationnaires, ben, c'est une chose que nous avons trouvée dans cet article allemand et que nous dévoilons à nos lecteurs. Bien entendu, ils peuvent faire fonctionner un four à micro-ondes sans savoir ça, mais enfin, ça me paraît intéressant de le savoir.
Justement, une des choses qui tend probablement à mettre l'homme contemporain en situation délicate, c'est qu'il est entouré de tout un tas d'objets qu'il est capable d'utiliser, mais dont il ne comprend absolument plus le fonctionnement. Ce qui ne devait pas être le cas de nos prédécesseurs sur Terre. La plupart comprenaient quand même à peu près, peut-être moins les phénomènes naturels, mais les outils utilisaient, ils en comprenaient quand même la logique interne de fonctionnement. Aujourd'hui, c'est à peu près impossible. Qui peut comprendre ?
Bien sûr.
J'ai à côté de moi un ordinateur.
Bien sûr.
Comment le comprendre ? Est-ce que vous ne pensez pas que ça contribue à un malaise quasi métaphysique de l'homme moderne ou postmoderne, je ne sais plus comment il faut l'appeler ?
Croyez-vous que ça implique un malaise ? Ça fait très longtemps que nous utilisons des automobiles sans savoir très bien comment ça marche. Bon, nous essayons d'expliquer un peu comment ça marche, mais...
L'automobile, vous croyez que bon, les pistons, tout ça, tout le monde connaît à peu près ça quand même, non ? Il y a eu un basculement quand même, non ?
Vous êtes capable de réparer votre automobile, vous ?
En l'occurrence, oui, je m'en veux de frimer à l'antenne, mais en l'occurrence, oui.
Eh bien, je vous admire beaucoup. Moi, je n'en suis pas capable. Mais
vous comprenez certainement mieux pourquoi il y a un moteur à explosion, ce qui se produit dans les pistons et autres. Mais moi, je vois l'enchaînement causal un petit peu primaire des choses. Mais pour la plupart des outils qui nous entourent aujourd'hui, comme précisément un four micro-ondes, ça me dépasse totalement. Et je crois que oui, ça participe d'un certain malaise, d'une réduction à l'état d'utilisateur-consommateur un peu passif. Et c'est aussi quelque chose que je me suis dit en lisant votre livre, c'est qu'on pouvait reprendre quelque peu la maîtrise, en tout cas intellectuelle, de ce monde qui nous entoure, le trouver à la fois extrêmement intéressant, mais être plus relié à lui, moins exclu, moins réduit.
C'est effectivement un peu notre ambition, oui.
Pour conclure, Jacques Villain, c'est totalement un autre sujet, parce que je parlais de notre rapport au monde, il y a un chapitre qui est très beau. C'est celui qui concerne les rapports entre la physique, la géométrie et la beauté du monde, justement. Est-ce que la pratique de la physique vous conduit, vous aussi, à vous émerveiller, voire des considérations de type esthétique ou artistique ?
Alors, moi, personnellement, j'avoue que je ne suis pas tellement... Je ne fais pas de lien direct entre la physique et l'esthétique, mais il n'y a aucun doute que pour certains physiciens, les citations qui illustrent le chapitre dont vous parlez sont dues essentiellement à mes collègues, à mes deux co-auteurs. Mais il est certain que, je crois, Werner Heisenberg, par exemple, a émis l'idée que la physique, ou le raisonnement mathématique aussi, devait avoir une beauté. Et bien évidemment, la géométrie que nous montrons a une certaine beauté, et d'ailleurs... Nous montrons dans ce livre une image d'un ballon de football, en somme, qui s'appelle un icosaèdre tronqué, si on veut, et qui a été dessiné par Léonard de Vinci après avoir été imaginé, sauf erreur de ma part, si je me souviens bien, par Piero della Francesca.
C'est ce que dit la légende.
C'est ça, oui. Oui, mais comme je n'ai pas le livre sous les yeux, je me souviens.
Mais moi, je l'ai, c'est pour ça. C'est le seul atout que je puisse avoir dans cette pièce. En tout cas, les photographies qui sont reproduites de molécules, de nanotubes de carbone et autres, peuvent en montrer même à Vasarely. Il y a une régularité, des variations, une gamme des algorithmes qui crée un choc esthétique.
Oui. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ces formes du carbone ne sont connus que depuis peu de temps, depuis quelques dizaines d'années. L'une d'entre elles, qui est le graphène, qui est un carbone plat, a valu le prix Nobel de 2010, je crois, à deux savants russes. Et pourtant, beaucoup de ces particules de carbone, qui sont très belles au microscope, mais il faut avoir quand même, même pas un microscope, vraiment... on ne peut pas les voir, disons, malheureusement, mais on sait comment elles sont. Elles existent quand même depuis la nuit des temps, depuis qu'il y a des feux de forêt, il y a des particules de carbone de ce genre, très probablement.
Ils évoquent autre chose, ce sont les structures en nid d'abeilles.
Oui.
Tant si bien qu'on finit par se demander s'il n'y a pas une logique globale à tout ça qui veut qu'il y ait une résistance de certaines formes qu'on retrouve sous forme plus que microscopique, donc dans le carbone, mais également dans des objets naturels ou conçus par des animaux.
Le carbone est quand même très particulier. Hein, et nous...
La forme est similaire, non ?
Nous citons quelques lignes de Primo Levi dans son... Primo Levi est surtout connu pour son livre, pour ses souvenirs d'Auschwitz, et ceci est un homme. Mais il a aussi écrit un livre qui est une louange de la chimie, qui s'appelle « Le système périodique », et il explique que le carbone est la source de notre vie, à cause de ses propriétés chimiques qui lui permettent justement d'exister sous des quantités de formes différentes et de faire des longues molécules en se combinant à d'autres matériaux, bien sûr.
La physique, c'est la vie, c'est aussi la capacité à percevoir les menaces qui peuvent peser sur la vie. Il y a un chapitre qui est consacré au réchauffement climatique avec des yeux et une sensibilité de physicien. Comment observez-vous ces phénomènes ? Sont-ils encore réversibles ? Quelle attention y prêter ? Voilà le type de questions que l'on se pose.
Bien sûr, oui. On sait que dans une certaine mesure, c'est pas réversible. C'est-à-dire que ça met beaucoup de temps à se renverser. C'est-à-dire que on accumule du gaz carbonique dans l'atmosphère et dans les océans, et que si on cesse d'en produire, on continuera à avoir du gaz carbonique pendant longtemps, et que cela risque de créer une augmentation de la température qui sera difficilement supportable, et des changements climatiques qui nous obligeront au minimum à changer beaucoup nos habitudes. Bien sûr, c'est l'un des aspects qui montre que la science, elle augmente notre confort, mais elle crée aussi beaucoup de problèmes, c'est bien évident. Donc il y a des aspects positifs et des aspects négatifs. Je pense que tout le monde en est convaincu, tous les physiciens en sont convaincus.
Elle apportera peut-être aussi la solution, en tout cas ce qui est certain... c'est que, avec les lunettes de la physique, ou plutôt le kaléidoscope de la physique, on est amené à voir le monde d'une façon plus profonde, qui est certain aussi. En lisant votre livre, on découvre que la physique mène à tout. Elle mène à l'art, elle mène à des considérations philosophiques, à des considérations aussi d'ordre environnemental. Et c'est pour ce quoi on ne peut qu'en recommander la lecture. Je précise que ce livre n'est pas destiné à un public spécifique. Il peut être abordé à la fois par... vous recommandez certes dans la préface d'avoir un niveau de type baccalauréat scientifique. Moi, je n'ai pas de baccalauréat scientifique, et le livre m'a pourtant passionné. Il est donc destiné à tout un chacun, peut-être simplement à une toute personne qui aurait un idéal d'honnête homme, comme on disait auparavant, et qu'elle vantait de comprendre à la fois les grandes choses comme l'univers et aussi le fonctionnement de la multitude d'objets ou phénomènes naturels auxquels nous sommes confrontés quotidiennement. Et c'est pourquoi, une fois de plus, Canal Academy en recommande la lecture. Jacques Villain, merci. Peut-être voulez-vous ajouter quelque chose pour conclure.
Ce que vous me dites que me fait évidemment très plaisir, que vous n'avez pas de baccalauréat scientifique et que vous avez quand même apprécié ce livre. Et hier, une personne qui n'a pas de baccalauréat du tout m'a dit la même chose et ça m'a fait évidemment très plaisir.
La physique pour tous.
C'est ça.
Merci beaucoup Jacques Villain. Thank you.